Bienvenue à la 18e édition des Apatrides Anonymes en ce 16 janvier 2020. Première émission de la nouvelle année. Nous, c'est notre deuxième année sur les ondes de choc.ca. Nous sommes très heureux et heureuses. Donc, oui, 2020, une année qui risque d'avoir quelques éléments, quelques actualités dont on va vous parler d'ailleurs dans les prédictions en fin d'émission. On a nos prédictions maison 2020. Donc, Mathieu est au micro en compagnie de Simon.
Salut.
Et de Marie-Ève. Bonsoir. Donc, nous sommes les trois avec vous, comme à l'habitude, les Apatrides Anonymes, pour présenter aujourd'hui surtout notre bilan 2019. Il va y avoir une partie nationale, provinciale et locale, une partie internationale dans quelques instants. Donc, émission du 16 janvier, 18h30 en direct de choc.ca. Vous savez que vous pouvez nous écouter en balado-diffusion à différents moments, à votre choix. Nos 17 précédentes émissions sont disponibles. Donc, c'est notre grand retour en 2020. Aujourd'hui. Donc, pour ce qui est de notre émission, qui va, pendant la prochaine heure, vous parler de racisme, de sécurité nationale et aussi d'immigration. Donc, c'est nos sujets principaux. On aura un invité aussi qui s'appelle Renzel Washington pour une carte blanche, un humoriste en résidence pour une seule émission pour l'instant. Il y aura une petite entrevue avec lui aussi. On aura aussi de la musique et, comme je vous dis, nous sommes les Apatrides Anonymes. Notre site apatridesanonymes.info et notre courriel apatridesanonymes@resis.ca. On part avec quelques notes de musique et ensuite on y va avec notre bilan, première partie internationale avec Simon. Ton défi, Simon, 10 minutes pour faire un bilan international de 2019.
Je vais faire mon possible. Il s'est quand même passé pas mal de choses en 2019 et la planète est grande. Elle est petite, mais elle est grande à la fois. Donc, salut Marie-Ève à la console actuellement.
Oui, salut. Bonjour.
Salut Mathieu.
Bonjour.
Salut tout le monde qui nous écoute. Je commence avec le peuple Rohingya qui a quand même marqué l'année. Une grande partie a déjà fui la Birmanie. Où ils font face à un génocide en raison de son appartenance à l'islam, finalement. Il faut dire qu'il y avait la prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi, qui a démenti tout au long de 2019 qu'il y avait un génocide en cours actuellement. Presque 1 million de Rohingyas sont maintenant dans des camps de réfugiés au Bangladesh, où on les tolère, mais dans des zones inondables, insalubres, propices à toutes sortes de maladies compliquées, souvent frappées par des cyclones, des glissements de terrain. Beaucoup de Rohingyas avaient poursuivi leur route vers l'ouest jusqu'en Inde, dont le gouvernement indien vient tout juste d'adopter en décembre un amendement à sa loi sur l'immigration qui régularise les réfugiés d'à peu près toutes les confessions, sauf les musulmans. J'expliquerai pas tout le mécanisme administratif, c'est un peu compliqué, mais ça laisse sans statut les Rohingyas et autres minorités musulmanes. Ça vient leur retirer leurs droits et carrément nier leur existence. La situation de génocide et d'exil des Rohingyas n'est pas nouvelle de 2019, donc ça a pris quelques années avant d'aboutir à la situation actuelle, mais avec le revirement politique en Inde, va falloir qu'on suive ça de proche et qu'on vous en reparle en 2020, parce que là, maintenant, le Bangladesh reçoit à la fois un afflux de réfugiés qui fuit le génocide en Birmanie à partir de l'Est et qui rebrouche chemin à partir de l'Inde à l'Ouest, donc c'est extrêmement lourd et compliqué à gérer. Des points chauds, il y en a plusieurs sur la planète en 2019. Donc, on n'a pas encore les statistiques globales sur les grands flux migratoires dans le monde. L'Agence de l'ONU pour les réfugiés devrait nous sortir ça d'ici au printemps. Je me rappelle pas en 2019 en quel mois il y avait ça.
C'était, je dirais, fin printemps, début de l'été. Ouais.
OK. Puis, rapport extrêmement complet, extrêmement bien fait, qu'on attend avec impatience. Les dernières statistiques connues nous montraient que c'était toujours les pays du Proche et du Moyen-Orient, comme l'Afghanistan ou la Syrie, d'où proviennent le plus de personnes migrantes et qui aussi, en même temps, en accueillent le plus de loin.
Exactement.
Parmi les autres points chauds de la planète, en 2019, point de vue migration, on trouve certains pays africains, les deux Soudans, l'Érythrée, le Congo et aussi des pays dans la moitié sud de l'Afrique qui ont connu toutes sortes de catastrophes et de crises sanitaires en 2019, ou encore certains pays d'Afrique de l'Ouest qu'il va falloir surveiller, qui sont de plus en plus instables, comme le Niger, le Nigeria, le Burkina Faso. Autre pays particulièrement critique de la planète en 2019, c'est en Amérique du Sud cette fois, c'est le Venezuela, qui est rendu à 5 millions de personnes qui ont fui le pays, beaucoup vers la Colombie, qui est le voisin le plus proche des zones les plus peuplées du Venezuela. Marie-Ève, tu veux nous amener un peu plus au sud, en Amérique du Sud, toujours pour nous parler de Bolsonaro?
Oui, c'est ça, parce que moi, mon événement marquant de 2019, en fait, c'est le discours de Bolsonaro, discours qu'il a prononcé devant l'ONU en septembre dernier. Bolsonaro qui est rentré en fonction comme nouveau président du Brésil le 1er janvier 2019. Qui est cet homme? Ancien capitaine de l'armée, hein, d'abord. Il était reconnu depuis très longtemps pour ses positions et propos racistes et offensants à l'encontre des peuples autochtones du Brésil. On en a parlé...
Entre autres.
Oui, entre autres. Il y a des propos homophobes là, aussi. Oui. En 98, par exemple, en tout cas, là, j'ai pas fait une sélection de toutes ces citations parce que il y en a plusieurs, mais en 98, entre autres, il avait déclaré ceci: quel dommage que la cavalerie brésilienne ne se soit pas montrée aussi efficace que les Américains. Eux, ils les ont exterminés, leurs Indiens.
C'est horrible.
C'est un homme d'une grande subtilité. En fait, pendant son discours devant l'ONU dont je parlais, Bolsonaro, en digne élève du président Trump, a vraiment assumé son statut de président fake news, lui aussi, à la fois paranoïaque, en multipliant à la fois les contre-vérités, en niant la réalité dramatique de l'accélération de la destruction de l'Amazonie. Par exemple, il a prétendu que lui, il défend le Brésil contre les velléités des chefs d'État étrangers à vouloir augmenter la surface des terres indigènes protégées au Brésil, comme s'il se présentait comme un anticolonisateur, alors que c'est l'inverse.
Ben, il dit ça, c'est un peu pour saboter l'économie du Brésil là, de la part des étrangers.
Oui, c'est ça. Pendant ce discours-là, il a également comparé les indigènes, les appelant nos Indiens, hein, à des hommes des cavernes, à des pauvres qui vivent sur des sols immensément riches. Mais ce qui a plus fait réagir, c'est qu'il a présenté le cacique Raoni Mictouctir, 89 ans, qu'on connaît là, depuis son engagement depuis 60 ans pour son peuple et pour la défense de la forêt amazonienne. Il l'a présenté donc comme marionnette de chef d'État étranger. Donc ça aussi, on en avait parlé là, pendant l'année. Il y a plusieurs ONG qui ont dénoncé le discours de Bolsonaro comme un jour de triste mémoire, comme l'entrée du Brésil dans les ténèbres au regard de la diplomatie internationale, de la lutte contre le réchauffement climatique et de celle pour la préservation du monde vivant. Quant à moi, il me semble que c'est surtout l'ONU qui devrait avoir honte d'avoir invité un tel homme et lui avoir permis de tenir de tels propos.
Merci Marie-Ève. Dans le reste des Amériques, ce qui a marqué encore en 2019, autre que la question de la frontière entre les États-Unis et le Canada et l'entente des CRPSA, c'est évidemment l'autre frontière américaine, celle avec le Mexique. Le Mexique qui se disait, avec son nouveau gouvernement, vouloir davantage accueillir, régulariser les personnes migrantes qui arrivent d'Amérique centrale plutôt que de refouler massivement vers le sud les migrants qui cherchaient à traverser le pays, ben il semble que le changement de culture ne se soit pas vraiment opéré. Même s'il y a toujours autant de gens qui atteignent la frontière des États-Unis, le Mexique refoule encore beaucoup. En plus d'avoir considérablement militarisé sa frontière sud en 2019, donc plus de 25 000 soldats déployés sous la pression américaine. Sur la fameuse question des caravanes qui traversent l'Amérique centrale puis le Mexique pour essayer de rejoindre les États-Unis, elles se sont poursuivies en nombre important en 2019. Elles sont composées de gens qui proviennent principalement du Salvador, du Guatemala et surtout du Honduras, trois pays particulièrement explosifs en 2019 avec lesquels Washington a cette année signé des ententes pour, entre autres, y expulser massivement les personnes migrantes par avion ou faire de la rétention en sous-traitance internationale, donc y maintenir le maximum de personnes migrantes pendant que les demandes d'asile sont analysées. Soulignons que Washington considère le Salvador, le Guatemala et le Honduras comme des pays sûrs. Aux États-Unis, on a atteint 2019...
C'est la blague de l'année, ça.
Ben, il y en a beaucoup de blagues, mais celle-là est sinistre, là, je dois le reconnaître. Là, le Honduras, ben, en fait, ces trois pays-là, c'est quasiment un climat de guerre civile. Aux États-Unis, on a atteint en 2019 des records de tous les temps d'expulsion de personnes non documentées et surtout de détention de personnes migrantes à l'intérieur du pays, surtout aux frontières, dans des bâtiments de fortune surpeuplés. Évidemment, la question qui a le plus occupé l'actualité américaine en 2019, c'est la séparation des enfants migrants de leurs parents dans des conditions qualifiées d'inhumaines. Plusieurs morts à déplorer du côté des adultes, mais aussi du côté des enfants et des adolescents. Pratique barbare qui se détériore de plus en plus. On va aller faire un petit tour en Europe, peut-être 2 minutes avant de poursuivre l'émission. Donc, bon débarras de l'année. Matteo Salvini, qui a été tassé du gouvernement... Oh, on fait des thumbs up en studio
Yay!
Ici. qui a été tassé du gouvernement italien, puisqu'il y a eu une reconfiguration de la coalition au pouvoir à Rome. On n'expliquera pas la politique italienne.
Non,
c'est
monsieur.
Pire que la politique israélienne, je crois, ou ukrainienne. L'extrême droite dirigée par Salvini a été remplacée, si je me rappelle bien, par les Verts.
Non.
Non?
Par le mouvement 5 étoiles, oui. Qui est un mouvement un peu particulier, et par le vieux Parti démocrate. De centre-gauche qui est un vieux parti pourri, mais c'est un peu moins pire que la Ligue du Nord.
Le parti majeur, ben, qui a le plus de sièges était le mouvement 5 étoiles.
Oui, qui était dans la coalition avant avec Salvini.
C'est ça, qui a remplacé Salvini par les Verts, en fait.
Par le Parti démocrate, oui.
OK, c'est ça.
Oublie les Verts en Italie.
Donc, Salvini est passé, finalement, de ministre de l'Intérieur à rien du tout. Mais il a quand même été très présent, très puissant en 2019, année où l'Italie était responsable pour l'Union européenne des missions de sauvetage en Méditerranée et où l'Union européenne devait renégocier les ententes entre ses membres sur cette question-là, entre autres, là, les missions en mer. 2019 s'est terminé sans entente complète entre les États membres de l'Union européenne. Donc, pour l'instant, plusieurs pays bloquent toujours leur port aux bateaux des missions de sauvetage qui sont de plus en plus gérés par des ONG et non par des gouvernements. Ça donne lieu à des épisodes assez pénibles de bateaux de sauvetage remplis de personnes affaiblies et affamées qu'on laisse naviguer, parquer en plein milieu de la mer pendant des jours, parfois des semaines, jusqu'à ce qu'un pays, que ce soit Chypre, parfois Espagne, je crois, daigne accorder l'autorisation d'accoster. Donc, on a vu ça souvent, ce genre de situation-là, en 2019. Bon coup de l'année en Europe, Pia Klempt, capitaine du bateau Sea-Watch, qui a refusé la médaille de la ville de Paris. Donc, la capitaine allemande en a profité pour dénoncer l'hypocrisie de la mairesse Anne Hidalgo concernant les actions pour les migrants, en lui disant qu'elle voulait donner une médaille pour des actions que la ville de Paris elle-même combat à l'intérieur de ses propres murs. Je paraphrase, en gros, Madame Klempt. Autre bon coup, on est en décembre 2018, mais je l'inclus quand même dans notre revue de l'année 2019 parce que c'est assez important. Le militant pour les droits de la personne Cédric Héroux a vu sa condamnation annulée par la Cour de cassation pour avoir secouru des migrants qui traversaient les Alpes de l'Italie vers la France. Ce verdict-là est très important parce que d'après plusieurs analystes, c'est un peu ce qui va sonner le glas du délit de solidarité en France. Donc, il faudra voir l'évolution de ce dossier-là. Autre nouvelle significative, on est encore dans les Alpes. Prison ferme contre les représentants de Génération Identitaire. Double thumbs up de la part de Marie-Ève à la console. Mathieu reste stoïque. Ah non, il met les pouces en l'air aussi. Ce groupe-là, Génération Identitaire, au style proche des jeunesses hitlériennes. Ça, c'est moi qui dis ça.
C'est Simon qui dit ça.
Avec uniforme, blason, slogan, chanson raciste, etc. avait fait des actions d'éclat dans les Alpes avec des énormes moyens techniques et financiers. Hélicoptères, captation vidéo... ultra-professionnels avec des barrières en agressant les pauvres migrants, dont plusieurs Africains, transis de froid, avec évidemment pas des bonnes bottes de marche ou de vêtements d'hiver pour traverser les Alpes, apeurés, affamés. Donc ce verdict-là viendra, on l'espère, peut-être un peu calmer les ardeurs des milices d'extrême droite qui font chier les familles de migrants qui traversent l'Europe en quête d'un peu de sécurité. Je pense que je vais passer le flambeau au prochain segment de l'émission parce qu'on a vraiment beaucoup de
stock et on s'est dit tantôt qu'on pourrait faire les suites et les restants dans 2 semaines du bilan 2019.
Hein? C'est ça. Donc j'ai quand même quelques restants. Ils vont être encore frais. Puis ça va être encore bon.
Ah oui, on peut souhaiter bonne année jusqu'au 31 janvier. Hein?
Oui, c'est ça. Donc dans quelques instants, le retour à Mathieu.
غيرنا بينطمر بالعملة ونحن اللي بنبتلى فندفنا بالليالي لما طلبنا العلا ما رح ينفع التظاهر
لو الفكر محجر زدت المقرر الجامعة انخدمت بالشمع الأحمر عمين بدي ازعل على رفيقي يلي استشهد ولا عمنظر رفيقي بنعش امه عم يتنهد عمين عهالمشهد لما الدم بيمتزج بالدفتر والأشلاء عم تتعدد لسه بيحكوا شمال محرر ازعل عن مستقبل الدراسي ولا 2000 طالب انطرده من الكراسي ولا ازعل على أستاذي اللي راح افقده واللي وعدني ما راح نيأس فمين بدي واسي انتو مين المنافق ما حكى بالدين هاد بيدعي الخلافة وهاد بيفتي عن يقين هالسياسة ساخرة نقابك اخلعوا بأرضي هاي البلد طاهرة هون معقل اتفاقيات الروسي فحدد انتماءك بين القاعدة او الحكم المجوسي لانه صواريخهم ما بتصيبك لو كنت بصفهم روح شوف الشعب بعد نتائج مؤتمر سوشي تصنع ايديولوجي تدمير البنى التحتية فالموازنة بين الالف والقاف ما رح تمحي العنصرية او بين اخوان احزاب او مذاهب شيوعية ولو بتفصل اي شيء عن الدين بيتهموك بعلمانية الا لو كنت اجنبي الجنسية اسمك متطرف سوق سودا وتبييض الاموال وتجار عملة الف مصرف كلهم سلف ودين مثل السلف بالدين استلموا الميادين بعفرين عملوا مناطق عازلة كله بيشهد عليك اعلاميين منظمات خارجية وفصائل متخاسلة ما تحاول تزرع لتحصد مستقبل لانك عايش باراضي قاحلة عنده ضمير يجيب لك شاهدين زور شافوك عم تسرق ويلزقك بتهمة باطلة كل واحد هون راس سلاح وبيت وسيارة وسفر فاخرة وخطابات ساخرة وعملة بادرة لتنهش الايادي العاملة وشو ما سمعت او شفت لازم تعمل حالك متت حتى ما تقول اندمت انك اكشفت مخططات فاشلة غيرنا بينطمر بالعملة ونحن اللي منبتلى فاندفنا بالليالي لما طلبنا العلا ما رح ينفع التظاهر لو الفكر محجر زدت المقرر الجامعة انخدمت بالشمع الأحمر عمين بدي ازعل على رفيقي يلي استشهد ولا عمنظر رفيقي بنعش امه عم يتنهد عمين عهالمشهد لما الدم بيمتزج بالدفتر والأشلاء عم تتعدد لسه بيحكوا قال موسيقى الراب فاضحة نادوا المكافحة لازم نسيطر على الفساد اعتقلوا هيسكي لأنه عم يحكي عالسياسات ومنعوا كل حفلة جون فلود ودرتي مولي بالبلاد خلينا نوجه رابرز ما تحكي بسمعة القواد انشروا بالإعلام انه فن داعم للإرهاب التصريح بوتين كم رابر ورا القطبان وكم فيك تسمى فنان ضجوا بوسائل الإعلام قد ما فيكن كبسوا أنفاس الشعوب أنظمة بتتغذى عالحروب والدم كلمة عندهم إرسال وفود استطلاع وتاني يوم بينقصف مخيم سكروا مداخل التعليم جيبوا مراقبين لأنه باب الرزق عم يتسكر يا بتدفعوا ترخيص يا بنعتقل كادر التدريس يا أما درسوا عنا ضمن نهج ومقاييس وتكرموا منوصلكن بباص أخضر فلا تتحسر أي جهة بتفوز أو أي فتوى بتجوز نقط تركية أو روس وزع شظايا بالروس بدك دليل ملموس بس أعلامك مبرمج روبوتات موجهة بتشرب قطن مهدرج جبلي واحد فيهن عنده القدرة ينشر تفكيك لشي قائد متوج فأكرم النفوس ذلت ألو ابني أمر عسكري وقف القصف النقاط التركية دخلت
Les apatrides de Zanonym sur les chocs de onde.ca, non, sur les ondes de choc.ca, c'était le rappeur syrien Amir Al-Mouari. Al-Mouari, c'est A-L-M-U-A-R-R-I, la pièce On All Fronts. Rappeur syrien de la région d'Idlib qui est bombardé sans pitié depuis plusieurs mois par l'aviation syrienne et russe. Et d'ailleurs, plus tard à l'émission, vous passerez à une pièce d'une russe, d'une rappeuse russe qui répond en solidarité avec les Syriens bombardés à Idlib depuis plusieurs mois. Je vais y aller avec le bilan national, provincial et puis local. On va vous passer le plus d'informations qu'on peut et la suite dans deux semaines. Au fédéral, les Sunny Ways, toute l'année, on vous a parlé des Sunny Ways de Trudeau, qui se sont un petit peu assombris avec depuis le début du mandat, puis surtout dans la dernière année 2019, avant les élections. Les élections, je n'en parlerai pas beaucoup, juste vous dire que pendant les élections, on apprend que le gouvernement Trudeau conteste un jugement assez sévère de la Commission des droits de la personne du Canada, qui lui oblige, qui lui obtempère de verser 40 000 $ à chaque enfant autochtones de réserve ayant subi des dommages causés par le système de protection de la jeunesse dans les réserves. Donc, c'est une facture de 2 milliards de dollars que Trudeau conteste. Et ça, c'est arrivé en pleine campagne électorale. Fait que disons qu'au niveau de la réconciliation, ça a un petit peu mal passé. Migrants irréguliers, en septembre, juste avant les élections, le fédéral donne finalement le 250 millions au provincial pour compenser les dépenses reliées à l'arrivée en logement, en soins de santé au gouvernement du Québec. Peut-être vous dire qu'en 2017 et 2018, il y a eu près de 19 000 migrants irréguliers qui sont arrivés surtout au Québec par le chemin Roxham, et qu'en 2019, on a eu les chiffres aujourd'hui, c'est 16 500, donc une petite baisse de 15 %, mais pas tant que ça. Au niveau des demandes d'asile au Canada, on en avait 16 000 demandes d'asile en 2015. Hein, et en 2018, 55 000. Et en 2019, on a eu les chiffres aujourd'hui, 64 000 demandes d'asile. Donc, c'est en augmentation. On parle de l'ensemble des demandes, pas juste les gens qui arrivent par les frontières comme Roxham, mais en général, les demandes d'asile au Canada.
Si on fait une petite règle de trois élémentaire, le chemin Roxham n'a pas un impact si important que ça sur les demandes d'asile, là. Si on regarde les chiffres, là.
Non, ben, je te dirais que sur les 16 500 qui sont arrivés au Canada de manière irrégulière, il y en a à peu près eu 12 000 par le chemin Roxham. Okay. Fait que sur, fait que c'est pas une augmentation, ça fait partie des demandes d'asile, je dirais, en général. En avril, on apprend qu'il y a 75 000 demandes en attente qui traînent depuis des années. Ça, c'est sorti par différents, entre autres, l'Institut de la statistique du Canada. Donc, c'est un chiffre intéressant. Donc, on parle d'années d'attente au niveau du, de décision pour le statut d'asile de réfugié. Taux d'acceptation des réfugiés en baisse de 5% au Canada par rapport à 2018. C'est le rapport du HCR au printemps, Simon, dont tu parlais tantôt. Donc, il y a une baisse aussi d'acceptation. Et pour venir un petit peu plus loin dans l'année, en janvier, il y avait eu la nouvelle mouture de la réunification familiale. On parlait plus de loterie, mais on parlait du premier arrivé, premier servi. Et vous vous rappelez qu'en 11 minutes, il y a eu 27 000 demandes qui ont été comblées et que plein de gens se sont retrouvés à que leur demande ne soit pas répondue finalement parce que c'est un système premier arrivé, premier servi sur Internet. Les réformettes de la loi au niveau fédéral, en mai, Ahmed Hussein, qui n'est plus ministre de l'immigration, abolit la liste des pays d'origine désignés, qui comprenait un paquet de pays, dont la Hongrie et le Mexique, c'est ceux dont on a le plus parlé. Ça abolit aussi l'interdiction d'appel pour les gens qui viennent de ces pays-là, et ça abolit le délai de 3 ans pour faire une demande
Évaluation des risques avant renvoi.
Merci Simon. Donc, on abolit ce délai-là de 3 ans pour les personnes toujours de ces pays désignés, d'origine désignée. Et évidemment, le mauvais coup de l'année au niveau fédéral, c'est le projet de loi mammouth budgétaire adopté le 20 juin. Le fameux projet qui inclut dans un méga projet budgétaire le fait que des demandes déposées par des réfugiés dans 4 pays qui font partie des Five Eyes avec le Canada, donc Nouvelle-Zélande, Australie, États-Unis, Royaume-Uni, seront refusées automatiquement parce qu'ils ont déjà fait une demande dans ces pays-là. C'était le discours du magasinage de demandes d'asile par le gouvernement fédéral. Donc, toute cette approche-là aussi de blâmer les réfugiés. Et on s'est retrouvé avec l'adoption, finalement, de cette réforme-là, de cette partie-là, dans le projet de loi mammouth budgétaire au mois de juin dernier. Mais en même temps, on en a profité dans cette réformette-là, qui est notre mauvais coup fédéral de l'année. On a allongé les délais pour déposer une demande de RR, justement, évaluation des risques avant renvoi, pour l'ensemble des demandeurs d'asile, et aussi pour les demandes de considération d'ordre humanitaire, qui ont été aussi beaucoup plus compliquées par cette réforme-là. Donc, pour tous les demandeurs déboutés qui demandent soit une RR, soit une demande de considération d'ordre humanitaire, ça a été rallongé dans les délais officiels à la Cour fédérale au niveau de la Commission du statut de réfugié. Donc ça fait partie de notre mauvais coup de l'année. Au niveau provincial, les voies brunantes et non pas les Sunnyways, donc les deux baillons de juin... Elle est très bonne, hein? Les deux baillons de juin, donc c'est assez difficile de les éviter. Le projet de loi 9 qui concerne le programme régulier des travailleurs qualifiés, les fameux 18 000 dossiers qui représentent, on le rappelle, plus de 50 000 personnes. On retient seulement 18 000, mais c'est le 50 000 qui est important. Donc, dossier jeté à la poubelle. Le fameux système de déclaration d'intérêt, le portail Arima et le nouveau pouvoir discrétionnaire d'invitation du ministre selon les qualifications des gens. Sinon, la loi 21, hein, les chartes suspendues, les deux chartes suspendues avec la clause non-obstant. La contestation institutionnelle s'est écrasée. Au début, on avait des commissions scolaires qui voulaient contester. Tout ça a tout tombé à l'eau. Les derniers développements en cours, ben la Cour d'appel a décidé de pas se prononcer et tout s'en va en Cour suprême dans les prochaines années. Mais la loi 21 est là pour quelques temps encore avant que la Cour suprême, finalement, la remette en question. Au niveau des seuils, 40 000 personnes en 2019 acceptées. On vit 52 000 en 2022. Et la fameuse réforme des seuils d'immigration, le résultat, c'est que l'immigration économique est en hausse, les parrainages, les réunifications familiales et les réfugiés sont en baisse. Donc, c'est ça le résultat de cette démarche-là de la CAQ. Donc, on baisse les taux pour un bout de temps pour après les changer les critères et les catégories. Test des valeurs, des jokes de l'année aussi. Son nouveau nom, l'attestation d'apprentissage des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises. Finalement, qui n'a aucune incidence sur quoi que ce soit, c'est juste pour satisfaire la base électorale. On en a parlé il y a quelques semaines. Donc, voilà. Il me reste une minute. Je vais conclure sur le bon coup quand même. Mobilisation contre la réforme du programme d'expérience québécoise. Quoi vous dire de plus qu'une consultation supposément plus en profondeur à venir? Ça a été la première défaite officielle du ministre Jeanne Barrette et du gouvernement de la CAQ au niveau de son bulldozer au niveau des réformes de l'immigration, entre autres, ou des réformes sociales. Donc, ça, on peut dire qu'à ce niveau-là, ça a été une belle mobilisation à la fois des étudiants, étudiantes, étrangers, travailleurs étrangers aussi, et des groupes communautaires et de différents secteurs. Donc, voilà. Je peux peut-être vous dire que je garderai dans le fond le local pour dans deux semaines, parler du SPVM entre autres, du racisme ordinaire, parler aussi de la fausse ville sanctuaire, parler aussi de François Legault qui conteste aussi une décision en cours au niveau des enfants des communautés autochtones. Donc il y aura beaucoup de stock à vous dire, mais on va accueillir notre invité dans quelques secondes après quelques notes de musique. Donc Renzel Washington est avec nous. Toujours aux apatrides anonymes sur les ondes de choc.ca, édition du 16 janvier en direct des studios. Donc, on a un invité spécial, Renzel Washington. Simon, je te laisse la parole.
Ben, on va plutôt lui laisser la parole.
Ça serait mieux, hein?
Ça a l'air qu'il nous a préparé quelque chose. On verra s'il a compris la thématique, là, qui est... on verra ça après.
Oui.
Donc, carte blanche à Renzel D. Washington, F. Washington. Ça a l'air de changer des fois.
Renzel F. Washington.
Yes.
Cool. F est pour le mot qu'on ne dit pas en onde.
Ah, oh. C'était une de mes questions.
Hein? Absolument. Absolument.
On te laisse la parole.
Écoutez, c'est un peu froid comme introduction. Renzel Washington, 42 ans, célibataire, comme à chaque semaine.
C'est bien de dire célibataire.
Comme à chaque semaine.
Comme à chaque semaine. L'année 2019 étant une année extraordinaire. Personnellement, moi, j'ai vécu des hauts, mais des hauts, mais des hauts. Mais je me suis rendu compte et j'ai eu un coup dur le jour où je me suis dit peut-être que Martino m'a pas tort.
N'a pas tort. Mm-hmm.
Richard de son
prénom. Ça va pas bien. Hein.
Ça va pas. Quand t'es un homme noir de 42 ans qui a vécu dans un espace public avec cet homme-là, c'est pour la première fois de ma vie, j'ai dit, je comprends ce truc chez cet homme qui dit, mon Dieu, nous les hommes, on l'a pas eu facile. Ok, je suis un humoriste, donnez-moi un peu de chance. Mais c'est vrai que dans le féminisme, il y a cette idée de dire que les femmes ont dû prendre un backseat aux hommes qui conduisaient pendant toutes ces années. Et il y a des hommes comme Richard Martineau, peut-être j'en suis un, je sais pas, qui se disent, mais qui a dit que je voulais conduire à la base? Hein?
De grandes questions. Hein?
Qui a dit que je voulais conduire à la base? Ça fait des années que je conduis. La vérité, si tu voulais conduire, peut-être fallait me le demander. OK? J'ai 42 ans. Je date beaucoup, chers amis. C'est difficile, cette conversation. C'est qui paye la facture?
Des grandes confessions, oui. Tu te mets à nu pour nous.
Hein. Ben, vous m'avez demandé de vous dire c'est quoi mon coup dur de 2019. J'y arrive. C'est extrêmement simple, ce coup dur de 2019. Mais il commençait quand, comme comme homme, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire que moi et Richard Martineau, on est sur la même planète? Quand le chèque arrive au restaurant et que je me dis, moi, je pense que j'étais une bonne date, peut-être que tu devrais m'inviter. Est-ce que ça vous est déjà arrivé?
Non.
Non, moi, je paye jamais. Il n'y a pas de problème. Tu vois?
Pour toi ou pour l'autre?
Mais c'est le white privilege.
Pour l'autre, surtout.
Ben, ça me fait plaisir que tu fasses cette transition vers le white privilege, parce que c'était mon vrai coup dur de l'année 2019.
Ça me aussi.
OK. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Je m'excuse. J'étais avec quelqu'un qui m'a fait essayer quelque chose qui me met un peu dans un état second en ce moment. Mais je m'y rends. Donc, en 2019, ils ont rendu illégal cette idée du stop and frisk à Terre-Neuve, si je me trompe pas. Vous avez entendu parler?
Peux-tu expliquer un peu? Oui.
Donc, le stop and frisk, c'est un concept par lequel un policier, s'il pense que quelqu'un est suspect, il lui demande de s'identifier et par la suite, va le fouiller, va investiguer un peu dans l'idée de te poser des questions ou il va dire, ah ben tu vois, peut-être que tu réponds aux critères de quelqu'un qu'on cherchait, ça te dérange pas, je vais te fouiller. Si tu dis non, il dit, ben c'est suspect, pourquoi tu voudrais pas que je te fouille? Tu vois, et ça, c'est des choses qu'on imagine sur les rues new-yorkaises, mais ça arrive au Canada et dans ce coin-là, c'était un réel problème parce qu'il y a ces villes d'anciens esclaves noirs américains qui ont construit cette partie-là du Canada et il y avait des problèmes de profilage racial extrême dans ces coins-là. Maintenant, donc, dans cette province, on a dit, à partir de maintenant, c'est illégal de faire du profilage racial, essentiellement.
Ouais, il y a pas ça, les interpellations aléatoires.
Oui, mais voilà. Bon, on le sait très bien que c'est...
Très aléatoire.
Voilà. Ouais.
Et le coup dur est pour nous tous de se dire, ma révélation, est-ce que c'était si simple que ça?
Tu parles de changer la culture policière? Ou?
Ben, écoute, moi, je ne sais pas à quel moment tu commences à être... à quel moment tu commences à te qualifier pour un certificat d'études quelconque ou si moi j'ai été interpellé, j'ai été profilé racialement en voiture certaines années, 6 à 7 fois par année minimalement, et que j'ai mon permis maintenant depuis 26 ans. Est-ce que je me qualifie pas pour un certificat quelconque, une spécialité quelconque?
Tu pourrais être spécialiste en driving while black?
Ben écoute, je sais pas ce que ça paye dans je ne sais pas quel job, mais cette expérience là fait que tu sais, est-ce que si on doit la compter en minutes, tu sais, si on parle pas des émotions de ce que moi j'ai vécu, de quelqu'un qui aujourd'hui très honnêtement vit du PTSD, stress post-traumatique, okay, dans mon expérience quotidienne avec la police, si je vois des lumières, que je conduise ou pas. Parce que en 2019, entre 2018 et 2019, on m'a pointé un revolver au visage en deux fois. C'était les premières et la dernière fois de ma vie. Et c'était des policiers pour aucune raison autre que j'étais là, j'étais noir et que c'était la couleur de ma peau dictait un ton par rapport à mon degré de dangerosité, mettons.
Mais là, t'as des belles lunettes d'intellectuel. Est-ce que ça peut amenuiser le...
Man, I wish. Mm. I wish.
Ah, ouais, hein?
Oh, no joke, I wish.
Mais sans niaiser, c'est fou. Beaucoup de gens ignorent que le phénomène est grand à ce point-là.
Ben, je sais pas pourquoi. Peut-être que je devrais poser la question j'ai des amis québécois. Quand ça m'est arrivé la première fois, cette chose-là, je rejoignais des collègues. Et quand j'arrive, les gars, ils me voient, dans mon visage, c'est clair que je viens de vivre quelque chose, ils me posent la question, puis leur instinct, c'était presque de dire, ben non. Parce que, pour une personne blanche, le privilège que moi, je ne connais pas, la police, autre pour exception, c'est quelqu'un que t'appelles quand t'as besoin d'aide. Moi, j'ai des interactions avec la police parce que j'étais là, devant lui.
T'avais pas demandé ce qui arrive, hein?
Ben, au sens où moi, je suis juste une personne dans mon corps. J'allais du point A au point B dans un moment dans ma journée. Tu vois, comme tu sais, je veux dire, c'est comme quand j'ai vu ce truc-là à Terre-Neuve, cette nouvelle-là, ça m'a vraiment fait un truc de dire, regarde dans cet aspect-là, ils ont dit, écoute, je vois pas c'est quoi le pour ou le contre dans cette question. Si on a des policiers, on vit au Canada, là, les gens sont pas armés, là, on n'est pas en Amérique. Quelqu'un qui a une arme, c'est quelqu'un qui a une autorité qui est habituellement donnée par l'État. C'est notre privilège de Canadien, là, on vit pas aux États-Unis ou dans un pays du tiers-monde. Un citoyen normal, s'il lui est rien arrivé, a aucune raison d'interaction avec la police. Mais lance une roche puis touche un noir, demande-y, il va te dire dans la dernière année sa dernière histoire. Minimalement. Donc, ça arrive ici aussi, en Ontario aussi. Le coup dur, la tristesse, le truc, j'ai dit, man, c'est que ça a l'air, c'était aussi facile que ça. C'est fini, guys. It's illegal now.
Est-ce que, tu sais, quand mettons une fille se fait violer, un genre de slut shaming, on va dire, était habillée trop sexy, est-ce que toi, parmi tes amis non black, est-ce qu'il y en a qui disent, ouais, t'es habillé en gangster, ou, je sais pas trop, est-ce qu'on fait reposer un peu la responsabilité sur toi?
Non, parce que je pense pas que je m'habille en gangster. Les gens me voient pas à la maison, là. Je pense pas
particulièrement. On peut confirmer, ouais.
Puis aussi, j'ai comme 42 ans, j'ai du blanc dans ma barbe. C'est toujours drôle parce que c'est...
On peut confirmer ces aussi, agents-là. Parce qu'il y a pas d'été depuis longtemps.
ces agents-là sont souvent beaucoup plus jeunes que moi, tu sais. Fait que, déjà au départ, moi, dans mon interaction humaine, je m'attends même pas à ce qu'on aille là. Tu sais, tous les jours, tu côtoies des gens. Moi, je suis un peu plus vieux. Je rencontre des gens un peu plus jeunes. Dans une société civilisée, là, dans celle que je connais, on se doit un minimum de respect. It is what it is, là. Mais ça change totalement dans une interaction, dans une personne qui a ma couleur, avec quelqu'un qui a cette autorité-là. Puis ça existe, so... Quand tu dis, est-ce qu'il y a des amis qui me slut-shame? Non, comme cet équivalent-là, mais je me suis rendu compte que c'est le plus proche que je pourrais vivre d'un viol, la manière qu'une femme pourrait le vivre, parce que après chaque interruption, tu te demandes qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment. Parce que dès le bonjour, ça va plus loin que toi t'aurais voulu.
Ouais, ça déstabilise. Puis en plus, toi, t'as eu des armes pointées sur toi, ce qui est quand même extrême.
Ça, c'est l'extrême. Mais te retrouver dehors de la voiture, en train de te faire pader par quelqu'un, quand t'es un citoyen normal, si ça t'arrive plus d'une fois dans ta vie, une fois, c'est un flou, mais quand ça t'arrive plusieurs fois, tu te dis, ben, c'est pas normal. Right? Tu sais, si ça arrivait à tous les citoyens normaux, ils auraient beaucoup plus de pression. On vivrait dans un... Ça serait l'armée.
Où il n'y aurait plus de police.
Où il n'y aurait plus de police.
Mais on a parlé beaucoup de racisme systémique cette année.
OK, oui.
Puis là, il y a eu un rapport sur le SPVM qui dénonçait justement les fameuses interpellations ciblées.
Oui.
Qui visaient certaines communautés en particulier. Donc, tu te reconnais là-dedans, là, dans ce rapport-là, dans ces critiques-là. Là.
Oui, mais j'ai détesté complètement.
Qu'est-ce que tu as détesté?
Ben, tu sais comment ils disent qu'un sondage peut te faire dire n'importe quoi.
C'est pas un sondage. Non, c'est plus des...
C'est un sondage.
C'est
des
statistiques.
C'est une statistique. Ouais, mais ouais. Comment tu choisis de dire ce que tu dis, tu veux tout dire.
OK.
Donc, dans ce truc-là, ils disent les hommes noirs ont 4 fois plus de chances d'être interpellés dans un cas où ces gens-là n'ont eu aucune citation.
OK.
Mais moi, je peux te dire... Près de 10 fois dans ma vie, les citations que j'ai eues, c'est parce que j'arrivais pas à donner mes preuves d'assurance, par exemple.
OK, d'auto, tu parles?
Ouais. Mais tu sais pourquoi mes preuves d'assurance, je les trouve pas? Parce qu'une personne normale les laisse dans le coffre à gants, on est d'accord?
Mm-hmm.
Mais parce que quand tu te fais arrêter souvent, des fois, ça arrive, tu le laisses sur le banc d'auto. Parce que le gars, quand il t'a arrêté, il t'a énervé, ça s'est mal passé. Puis quand t'es ressorti de l'auto, puis quand tu te fais arrêter une autre fois, t'es comme, ben oui, c'est la dernière fois qu'un de vous autres m'a arrêté, c'est pour ça que je l'ai pas. Mais ça, là, c'est un exemple. Mais que le gars, il dise, ouais, mais il me semble que t'étais sur ton cellulaire. Ou, tu sais, que quelque chose que, bon, peut-être tu contesteras, mais tout d'un coup, tu ne figures plus dans cette statistique. Mais fait que si ça c'est le chiffre de ceux qui étaient blancs comme neige, c'est-à-dire le gars il a travaillé fort pour trouver quelque chose. Tu sais, ton mofleux est correct, c'est ça qui arrive là, parce que quand il t'arrête, il va pas perdre son temps. il va essayer de trouver quelque chose avant de te laisser partir. Fait que là, ça, c'est ceux qui avaient rien, char, il faisait pas de bruit, il y avait pas une lumière qui fliquait, il y avait rien. Ça, c'est un chiffre horrible, les gars.
Mmh. Ouais, ça déshumanise un peu les chiffres, là, si on veut. Alors, il nous reste une minute, rapidement.
Désolé,
bon, on va te réinviter.
On va te réinviter, il n'y a pas de problème.
On prend la résolution pour 2020. Fait que je sais pas si t'as des shows, un podcast, quelque chose à plugger pour les gens qui nous écoutent puis qui seraient intéressés à t'entendre.
Ben, j'ai un podcast qui s'appelle Les Céréales Quelleuses où je parle avec un groupe d'amis autour d'une ancienne tradition d'anciens gros qui mangeaient des céréales tard le soir puis on échange de ce qui se passe dans le monde.
OK.
je suis aussi humoriste, donc je fais partie des Bad Boys du Rire, donc on a des spectacles qui s'en viennent, dont...
Les quoi t'as dit, les?
Les Bad Boys du Rire.
Bad Boys,
c'est un collectif d'humoristes montréalais. J'aurai mon spectacle solo qui s'appelle
je suis
juste parce que
ah
je
non,
veux te dire moi c'est
oublié
pas. Juste YLBSF.
OK. Ben merci beaucoup, on prendra plus de temps la prochaine
fois. Écoute, à la prochaine, merci de m'avoir été messieurs, c'était un plaisir.
Puis quand on te cherche,
mademoiselle.
Oui, quand on te cherche c'est Denzel F
R E N Z E L .D A S H I N G T O N.
Sur les
Washington, Renzel Washington partout sur les réseaux sociaux,
toutes les plateformes. Merci Renzel.
Merci.
On va avec un peu de rap russe, Marie Marisol.
Yes.
Горько-горько вдыхать дым и пахнет порохом. Слишком плохой урок терять крох. Рассыпали стены домов, дыр от бомб в сердцах. Не залатать, не запомнить боль былых войн. Сколько крови, мама, сколько пепла. Мелкие души, большие деньги. Вот уже зверь разбужен, щелкает зубами. Алеппо пропадает, Сирия в дымах растерзана. Группировками Аль-Каида, игроками на саммитах. Мистер президент, сам-то ты умыл простых людей слезами. Зачем я родилась в стране, где людоеды делают ракеты? От рассветов до смертельных закатов, отнимая жизни под прикрытием пропаганды. Как когда-то жизни горят и обещания испепелят новый день. Поколение слепков, поколение слепок. Кто бьет первым, кто умирает последним. Когда царя свергнут наследники людоедов, люди якобы света спят и видят сны о новой войне. Поколение слепо, поколение слепков. Кто бьет первым, кто умирает последним. Когда царя свергнут наследники людоедов, люди якобы света спят и видят сны о новой войне. Есть ли живые души в России, матушки, кто мужественно хочет мир во времена пропаганды, любви к войне? Пепел к пеплу, агрессия к страху, весь мир затрахан новыми бомбами. Как музыка остановить пытки в тюрьмах, как словом остановить ковровые бомбардировки, жать руки братьев и сестер по музыке. Грустно так вспомнить, что русские бывают не убийцами, кому-то снится мир, но получается лишь война кровью заплатить за брата. Россия открыла врата, но это врата ада. Нападает поколение слепков, поколение слепок. Кто бьет первым, кто умирает последним. Когда царя свергнут наследники людоедов, люди якобы света спят и видят сны о новой войне. Поколение слепков, поколение слепок. Кто бьет первым, кто умирает последним. Когда царя свергнут наследники людоедов, люди якобы света спят и видят сны о новой войне. Поколение слепков, поколение слепок. Кто бьет первым, кто умирает последним. Когда царя свергнут наследники людоедов, люди якобы света спят и видят сны о новой войне. Поколение слепо, поколение слепков. Кто бьет первым, кто умирает последним. Когда царя свергнут наследники людоедов, люди якобы света спят и видят сны о новой войне.
Toujours aux apatrides anonymes à choc.ca. Marie-Ève est en studio pour nous parler des citations racistes. Malheureusement, il y en a beaucoup. 2019.
Oui, mais j'ai décidé de m'en tenir à deux, soit une pour ici, hein, pour le sol québécois, et une pour Outre-mer. On va commencer par le sol québécois. Donc, en 2019, les discours racistes ont connu, on en a parlé, hein, une quasi-normalisation dans l'espace public au Québec. Au-delà des médias sociaux, des radios de poubelle et des chroniqueurs à qui on a juste envie de répliquer « OK, boomer », ce sont les propos islamophobes tenus par des personnalités politiques, plus particulièrement ceux de deux candidats du Bloc québécois qui sont ressortis lors de la campagne électorale fédérale de l'automne dernier. Je dis qu'ils sont ressortis pendant la campagne parce que ce sont des propos qu'elles avaient tenus précédemment dans les années au début des années 2010, mais qui ont refait surface donc pendant la campagne. Donc, on a appris, entre autres, que Caroline Desbiens, qui se présentait dans la circonscription de Beauport, elle avait écrit sur Facebook en 2013 qu'il fallait faire avancer la loi sur la laïcité du Québec pour, et je cite, « éviter le pire, soit que dans quelques années, vos filles, vos petites filles et arrière-petites filles soient obligées de se mettre un voile sur la tête pour aller faire des courses chez IGA, sous peine de se voir jeter en prison. »
Ouais, IGA, quand même, hein?
Non, mais IGA avec un voile, écoute, ça se fait pas.
J'ai jamais vu ça.
Non. Et en 2016, elle avait aussi publié au moins deux messages sur Facebook en appui à Marine Le Pen. Une autre qui, non la moindre, Lisabelle Nitois, qui, elle, se présentait dans Marquerelle Fortin. Elle avait partagé en 2016, toujours sur Facebook, hein, ce lieu de toutes les inepties, un article de Boris Lelay, qui est un blogueur et militant de l'extrême droite française. Donc, dans l'article de M. Lelay, on pouvait notamment lire cette affirmation. La consanguinité massive dans la culture musulmane pourrait avoir causé des dommages virtuellement irréversibles au socle génétique musulman, notamment des dégâts majeurs sur leur intelligence, leur santé mentale ou leur santé tout court.
Oui, je la rappelle de celle-là.
C'était pas pire quand même, ça score pas pire. Mais ce qui avait fait, moi, ce qui m'avait fait surtout sourciller, c'était la réaction du parti à propos de ces deux...
Du Bloc québécois, là.
Oui, c'est ça, ouais. Du Bloc. Donc, le Bloc avait réagi ainsi, c'est-à-dire que si ces candidats ont partagé des idées contraires aux valeurs du Bloc, dans le passé, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire au juste que ces candidates-là ne pensent plus ce qu'elles ont dit ou qu'elles le pensent encore, mais qu'elles ne l'expriment plus publiquement? C'est comme pas clair, là.
Mmh. Ou le Bloc pensait ça avant, mais plus maintenant.
Oui, c'est ça. Ouais. En tout cas, il y a toute une confusion, je trouve. Alors, on va se transporter de l'autre côté de l'Atlantique, où les propos islamophobes bénéficient aussi d'une tribune de choix. La palme de la citation raciste de l'année revient sans conteste à Éric Zemmour, ce journaliste politique et essayiste français qui a longtemps travaillé pour Le Figaro et qui est aujourd'hui plus connu comme le polémiste préféré de la planète Réac. Je vais vous remettre dans le contexte. Il était invité d'honneur à la Convention de la droite en septembre 2019, lors de laquelle il a prononcé un discours que plusieurs avaient qualifié de violence à l'état pur. La dernière fois, je vous en avais parlé, je n'avais pas donné d'extrait, mais là, je vous offre des extraits, mesdames et messieurs. Ah. C'est truculent. En France, comme dans toute l'Europe, tous nos problèmes sont aggravés par l'immigration et tous nos problèmes aggravés par l'immigration sont aggravés par l'islam. C'est la double peine. Il a également ajouté que la question identitaire précède toutes les autres et de conclure, la question qui se pose à nous est la suivante. Les jeunes Français vont-ils accepter de vivre en minorité sur la terre de leurs ancêtres? Mmh. Moi, je vous le dis, à côté de ça, Mathieu Boccoté et Denise Bombardier, ben, c'est de la petite bière.
Et Michel Houellebecq, évidemment.
Oui.
Peut-être dire, Marie-Ève, merci pour tes citations, que juste avant, on avait entendu, je ne l'ai pas dit, Marie-Marisol, From Russia with Love and Bombs, qui était une réponse de solidarité au rappeur syrien qu'on a entendu plus tôt dans l'émission, parce que son pays bombarde la région d'Idlib, entre autres, ces temps-ci. Donc, c'était un truc de solidarité entre une rappeuse russe et un rappeur syrien, en arabe et en russe, comme vous avez pu entendre ou ne pas comprendre. Dernière partie de l'émission pour cette première de 2020. Marie-Ève nous a complété des prédictions avec des choix de réponses on vous finit en beauté. On finit ça en beauté, pardon.
Oui, oui, j'étais vraiment excitée. J'avais tellement hâte de vous faire ça. Donc, je vous ai proposé, la façon qu'on va fonctionner, OK, je vais revenir sur certains éléments de l'actualité de l'année en vous proposant qu'est-ce qui va arriver en 2020, OK, avec des choix de réponse.
Oui, oui.
En alternant entre du local, du national, de l'international, on va faire le tour de la planète raciste.
Vas-y.
Donc, première question ou première prédiction. On en a parlé avec notre invité Renzel F. Dashington. Le SPVM semble avoir de plus en plus de misère à prononcer les mots profilage racial. Lors du dépôt de son fameux rapport, il a utilisé l'expression biais systémique. Donc, en 2020, quelle expression la police de Montréal proposera-t-elle? A. Discrimination inconsciente. B. Préjugés aléatoires, ou C, prévention ethnique, ou autre?
Ben, moi, j'en avais un, c'était daltonisme pigmentaire aléatoire.
Comment? Daltonisme à...
Recommence.
Recommencement.
Allô, allô.
Allô, testing, oui, on t'entend bien.
Daltonisme pigmentaire aléatoire.
Ça, c'est pas pire, ouais.
Moi, j'aime bien inconscient...
Discrimination inconsciente.
Discrimination inconsciente.
Oui.
On est un peu dans le Twilight, dans la quatrième dimension. Là.
On pourrait l'inverser aussi puis dire inconscient, discriminatoire.
Oui,
mais
voilà.
Bon.
Je pense que c'est ça qui gagne.
OK. On passe à l'international. J'en profite pour vous donner quelques faits en même temps. En date du 13 novembre 2018, l'Organisation internationale des migrations estimait que presque 92 000 migrants et réfugiés étaient arrivés en Europe par la mer, contre un peu plus de 100 000 pendant la même période l'année dernière, soit une baisse de 11 %. En revanche, près de 2500 migrants qui ont tenté de traverser la Manche pour rejoindre la Grande-Bretagne qui ont été secourus en mer en 2019, OK, soit quatre fois plus que l'année d'avant. Donc, ma question, en 2020, quel cours d'eau les migrants devront traverser pour se déplacer en Europe? Là, ça va faire appel un peu à vos notions de géographie. A. La mer Noire. B. La mer Caspienne. C. La mer du Nord, mais en passant par l'océan Atlantique. Ou autre.
Moi, j'ai autre.
Moi ouais. aussi.
OK, Mathieu.
Le Rubicon.
C'est où, ça?
C'est ça.
Ah, OK.
Quelque part en Italie.
Ben moi, j'avais à travers des vagues de populisme.
Ah, oh, ben là, on va prendre ça.
Simon fait de l'esprit.
Voilà.
On revient ici au Québec. On en a parlé. On revient sur un dossier dont on a parlé. Après la mise à la poubelle de 18 000 dossiers d'immigration, quel moyen la CAQ va-t-elle trouver pour régler des dossiers toujours en attente? A. S'assurer que les candidats échouent le test des valeurs. B. Remplacer le système Arima par le système Phoenix.
Bonne. Oui, c'est bon, ça.
C. Engager Luc Langevin pour les faire disparaître. Ou autre.
Autre.
Ah, Simon.
Ben moi, je me disais, il n'y a pas de plan vert à la CAQ, donc on va faire une première mesure environnementale, on va les recycler.
Oh! Ou composter.
Composter, je dirais plus. Ouais.
Composter les dossiers. Ben, oui. Composter les candidats et recycler les dossiers.
C'est ça.
Moi, j'avais proposé qu'ils allaient les refiler à l'île du Prince-Édouard ou à Terre-Neuve.
Ah! Où est-ce qu'ils vont se faire... c'est quoi l'expression que...
Parce qu'ils ont besoin... Ils veulent des immigrants.
Ah ouais, ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Hein?
Mais j'avoue que l'histoire de Phoenix est bonne.
Elle est pas pire, hein?
Ouais, ouais, ouais.
Je suis assez fière de celle-là.
Bravo, Marie-Ève.
On retourne à l'international. On a mentionné tout à l'heure Matteo Salvini. Alors, on sait qu'il a été éjecté. Sous quelle forme? Parce que quelqu'un d'éjecté finit toujours par revenir, hein? C'est immanquable. Donc, sous quelle forme Matteo Salvini, chef de la Ligue du Nord italienne et ex-ministre de l'Intérieur, va-t-il revenir? A. En chroniqueur du Figaro. B. En Nosferatu. Oh. C. En influenceur. Ou D. Autre.
Oh,
Simon!
Vas-y, j'en ai une
ben,
aussi.
J'avais peut-être sous forme de la mort avec sa grande fourche.
Ah, tu rejoins mon Nosferatu,
ouais, c'est
bien
ça.
C'est
pas mal,
ça.
Moi, je pensais en nouveau pape, Mathieu Ier.
Oh!
Après François Ier.
Moi, je vote pour le pape. OK, politique canadienne maintenant. Qui va remplacer Andrew Scheer à la tête du Parti conservateur? A. Maxime Bernier. B. Jean Charest. Ou C. une couchefferie comme QS, OK, avec Runa Ambrose et Peter McKay ou autre.
Moi, j'avais Maxime Bernier, j'avoue, là, mais, mais Brian Mulroney, ça me plairait aussi.
Ah, oh, il va faire la petite fille.
Moi, j'avais plusieurs. Mon cœur balance, là. C'est toi, Tasha Keridine.
Ah, tu avais pensé aussi.
Ou Laureen Harper.
C'est qui, donc? C'est ah, la femme de Stephen Harper.
Ben oui, franchement.
Ben, comme Hillary Clinton.
OK. On a parlé des tiers pays sûrs tout à l'heure. Alors, d'après vous, quel pays se retrouvera sur l'éventuelle liste des tiers pays sûrs de l'Union européenne? OK, rappelons que un pays est dit sûr lorsque, un, il dispose d'un système démocratique, deux, il n'y a pas de torture, trois, il n'y a pas de persécution, de traitement ou de punition inhumaine ou dégradante, il n'y a pas de menace de violence, il n'y a pas de conflit armé. Donc, d'après vous, A, la Turquie, B, l'Albanie, C, le Kosovo, ou autre?
L'Islande.
Oh.
Ah ben, gardons.
Ben, je vais dire le Vatican.
Ah. Liechtenstein.
Andorre.
Luxembourg.
OK, vous m'avez tous les deux pris au dépourvu.
On continue.
bon, là, il reste pas tant de temps que ça. Hein. On va en sauter un peu, je pense.
8.
Qu'adviendra-t-il du programme, tu veux que je... OK.
Oui.
Qu'adviendra-t-il de la controversée entente sur les tiers pays sûrs entre le Canada et les États-Unis? A. Elle sera suspendue pour 3 mois, tel que le permet l'article 10 de l'entente, puis cette suspension sera renouvelée pour de nouvelles périodes de 3 mois à l'infini, le temps de constituer une commission d'enquête, de rédiger un rapport, de faire des recommandations, blablabla, blablabla. Bla, bla. B. Elle sera renommée « Entente sur les tiers pays sûrets ».
Oh,
OK.
Ou C. Rien pas tout, mais un poste frontalier sera installé au chemin Roxham ou autre.
On va l'enchasser dans la Constitution canadienne.
Ah, ça, c'est une bonne idée.
Puis moi, je proposais qu'on va l'inverser.
Oh.
C'est-à-dire que c'est les gens qui s'en vont aux États-Unis qui doivent passer entre les postes frontières.
Excellent.
Et non, l'excellent.
Pour aller magasiner.
Hey, on a le temps pour une autre.
Une
okay?
dernière.
Une dernière, OK. OK. Où Trump va-t-il annoncer qu'il construira un nouveau mur? A. Tout autour des États-Unis.
OK.
B. Entre la Terre et la galaxie de Draco pour contrer la venue massive des reptiliens.
Bien sûr, on les salue.
Ou mon souhait à moi, entre son cerveau et sa bouche pour qu'il n'y ait plus un seul son qui en sorte.
Bonne chance. Moi, je dirais autour de l'islam.
Ah, ça, c'est bon aussi.
Ben, moi, je pensais autour de son club de golf en Floride.
Oh, Mar-a-Lago. Ouais.
Exactement.
Oui.
Bonne culture générale, Marie-Ève.
C'est Mar-a-Lago.
On le met à l'intérieur.
Malheureusement, Marie-Ève, il faut qu'on finisse l'émission dans quelques secondes. Il est 19h29. C'est les Apatrides Anonymes qui vous saluent. On se reparle dans 2 semaines, donc le 30 janvier. Marie-Ève, tu seras absente, mais tu seras en préenregistré.
Oui, c'est ça. Vive la technologie.
Donc, merci à Simon.
Merci.
C'est Mathieu qui vous parle. Merci à Marie-Ève.
On aura des restants de revue de l'année 2019 aussi.
Exactement. Puis, juste vous dire qu'il y a une assemblée publique samedi le 18 janvier à Montréal à l'Université McGill sur les politiques xénophobes et anti-immigration. C'est ouvert à tous et toutes. Donc, des bonus dans 2 semaines. Et Marie-Ève, on se revoit dans 4 semaines.
Yeah! Je vais m'ennuyer.
Bonne soirée à tout le monde.
Bonne
sur
soirée.
Les ondes de choc.ca.